Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans le chapitre 9 de la Genèse, Genèse chapitre 9, tout le chapitre. Non, c'était les 17 premiers versets. Chapitre 9, versets 1 à 17, excusez-moi. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Foisonnez et multipliez et remplissez la terre, et que toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur la terre et tous les poissons de la mer, vous craignent et vous redoutent, ils sont mis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie, où sera pour viande? Je vous ai donné toutes ces choses comme l'herbe verte. Toutefois, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et certes, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai de la main de toutes les bêtes et de la main de l'homme, même de la main de chacun de ses frères, je redemanderai l'âme de l'homme. Celui qui aura répandu le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous, donc, foisonnez, multipliez, croissez en toute abondance sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils qui étaient avec lui, en disant, « Et quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre race après vous, et avec tout animal vivant qui est avec vous, tant des oiseaux que du bétail, et de toutes les bêtes de la terre qui sont avec vous, de toutes celles qui sont sorties de l'arche jusqu'à toutes les bêtes de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Puis Dieu dit, « C'est ici le signe que je donne de l'alliance entre moi et vous, et entre toute créature vivante qui est avec vous, pour durer à toujours. Je mettrai mon arc en la nuée, et il sera pour signe de l'alliance entre moi et la terre. Et quand il arrivera que j'aurai couvert la terre de nuée, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, entre tout animal qui vit en quelque chair que ce soit, et les eaux ne feront plus de déluge pour détruire toute chair. L'arc, donc, sera dans la nuée, et je le regarderai, afin qu'il me souvienne de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout animal vivant, en quelque chair que ce soit sur la terre. Dieu, donc, dit à Noé, « C'est là le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Amen. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude, notre sermon. Alors, Seigneur, on vient à tes pieds, nous sommes tes enfants, Seigneur, nous t'aimons. Nous désirons cependant t'aimer davantage et nous savons que ta parole est l'instrument que tu te sers pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous instruire aussi ce matin, Seigneur, avec cette brève étude de quelques versets du chapitre 9 de la Genèse, Seigneur, nous implorons ton secours, ton soutien, ta lumière, ton éclairage et permets, Seigneur, que notre cœur, que tout notre être soit ouvert à la compréhension du texte et surtout, Seigneur, à l'application des principes que tu veux nous enseigner dans notre vie de tous les jours et tout cela pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, ce qu'on va faire, on va réviser un petit peu les premiers versets. On avait vu que les versets 1 à 7, c'était vraiment l'alliance divine avec Noé. C'était un peu comme si Dieu, lorsqu'il a voulu faire l'alliance avec Noé, a voulu faire une préface. On sait c'est quoi une préface? Quand on écrit un livre, souvent on va demander à quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un d'autorité ou quelqu'un connu de bien vouloir signer une préface. C'est comme une façon de présenter l'œuvre. Alors ici, Dieu, avant de faire son alliance avec Noé, c'est comme s'il voulait faire une préface. Autrement dit, présenter un petit peu avant la déclaration de l'Alliance, Dieu va faire cette préface-là. Alors, on sait que j'ai intitulé le message aujourd'hui « L'Alliance divine avec Noé ». L'alliance, c'est le principe unificateur de la Bible. Autrement dit, quand on comprend bien la théologie de l'alliance, qui part du début de la Bible, qui va jusqu'à la fin, c'est comme un cadre, c'est comme une façon, un cadre d'interprétation. Alors, c'est vraiment le concept unificateur de la Bible. Mieux on va comprendre l'alliance, plus on va comprendre la Bible en profondeur. Alors, la vision de Dieu et de la rédemption, concernant ses rapports avec l'homme, s'interprète dans les Saintes Écritures par le moyen des alliances. On a vu la semaine dernière, on va le reviser, c'est important de le reviser, parce qu'on a une mémoire qui oublie. Alors, la théologie de l'alliance comprend trois divisions de base. L'alliance de la rédemption, l'alliance des œuvres et également l'alliance de la grâce. Alors, l'alliance de la rédemption, c'est quoi? L'alliance de la rédemption, c'est simplement le fait que Dieu, dans l'éternité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont pris des décisions concernant le fait que Christ viendrait sur terre, qu'il porterait les péchés de ses élus, qu'il subirait leur châtiment à leur place, et que par la foi, nous recevions les bénéfices de tout cela. Alors, c'est vraiment l'entente faite au ciel avant la fondation du monde, entre les trois personnes de la Trinité. C'est important. Alors, dans cet accord-là, le Fils a accepté de devenir homme. On sait que Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, et Dieu le Saint-Esprit est Dieu. Alors, si Dieu le Fils est Dieu, et qu'il est venu sur la terre, il s'est incarné dans une chair d'homme, donc il fallait que dans l'entente qu'il y avait dans le ciel, il accepte ce rôle de venir sur la terre et de mener une vie parfaite et aussi de subir le châtiment sur la croix qui aurait dû être le nôtre à notre place. Alors tout ça, ça a été pris en conseil trinitaire et dans le ciel. Alors, c'est la fondation de ce qu'on pourrait dire de l'histoire de la rédemption. Autrement dit, notre salut a commencé là. Maintenant, l'alliance des œuvres, on sait que quand Dieu a mis Adam sur la terre, il lui a commandé des choses, il lui a dit que s'il obéissait, il vivrait éternellement, et que s'il manquait, il dit, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement tu mourras. Est-ce qu'il voulait dire juste la mort physique? Non, la mort physique, la mort spirituelle, ça veut dire que tout être humain qui vient au monde est automatiquement n'a pas de rapport avec Dieu, il est mort spirituellement, comme l'a dit les Écritures. Et s'il décède dans cet état-là, avant que Dieu lui fasse grâce, il va à l'enfer pour l'éternité. Alors, c'est vraiment l'alliance. Alors, quand Adam a manqué, son péché a fait tomber toute l'humanité en même temps que lui. Alors, quand l'être humain vient au monde, il est pécheur de la même manière dont Adam et Ève ont été pécheurs. Donc, ils ont eu, bien entendu, l'échec de ce que Dieu leur a présenté. Et tout cela a été envoyé, on a hérité, autrement dit, de ce qui allait avec tout cela. Alors, il y avait nécessité de racheter. Quel est l'endroit dans la Bible où il y a la première mention que Dieu va racheter l'humanité, qu'il va envoyer le Messie? On le sait, on l'a vu, on est en train d'étudier Genèse, c'est Genèse 3:15. Dans Genèse 3:15, on a la première mention de l'alliance de la grâce. Donc, l'alliance de la grâce, on pourrait la définir comme suit. C'est la révélation. Une révélation, on sait, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà vu, assister à une révélation, disons, d'une statue. Souvent, on y met un gros voile par-dessus, ou d'autres affaires. Et quand on veut la révéler, parce que personne ne l'a vu, excepté ceux qui l'ont conçue, ceux qui lui ont travaillé, mais en général, le public ne l'a pas vu. Quand on veut révéler quelque chose, on enlève le voile. Alors ici, l'alliance de la grâce, c'est la révélation. Donc, Dieu commence à montrer aux hommes la décision qu'il a prise et la manière qu'il va choisir pour régler le gros problème de l'homme qui est maintenant inimitié contre Dieu. Il est devenu un ennemi de Dieu. Donc, c'est la révélation, la mise en œuvre et le déploiement progressif de l'alliance de la rédemption sur la terre, dans le temps et dans l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'alliance, la première mention, Genèse 3:15, mais il y a des alliances qui sont des alliances, on pourrait dire des administrations qui ont commencé par Adam et ils ont trouvé leur apogée dans la nouvelle alliance. Ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Les différentes administrations, juste pour qu'on ait une idée, et plus tard, on l'a dit dans l'Église qu'éventuellement, on va préparer une série de leçons sur le thème de l'Alliance pour aller plus en profondeur, pour que vous compreniez bien ces choses-là. Le but de ce que je vous l'ai dit ce matin, c'est juste comme pour avoir une idée d'ensemble que la Bible parle des différentes alliances dans toute la Bible, et c'est ça qui vient nous faire comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, quand on parle des différentes administrations de l'Alliance de grâce, il y avait l'Alliance adamique, donc l'Alliance avec Adam, qui était la promesse initiale de salut, l'Alliance avec Noé, celle qu'on voit ce matin, le fait que Dieu promette qu'il a détruit la terre à cause du péché et de la méchanceté des hommes, il les a détruits complètement. Et là, il fait une promesse à Adam. Et sa promesse est la suivante. « Je ne détruirai plus la terre maintenant. » Et le but de tout ça, c'est très certainement pour montrer à Noé que la promesse qu'il a faite d'envoyer un Messie, il savait, Dieu, que ça prendrait du temps. Alors, il est en train de donner un cadre, qu'on pourrait dire, temporel. Autrement dit, c'est comme s'il disait à Noé, « Je vais donner à la terre le temps nécessaire pour que le Messie arrive. » Il est arrivé pas mal d'années après, le Messie. Hein? Il est arrivé en... Alors, l'alliance avec Noé et l'alliance avec Abraham. Quand on va arriver au chapitre 12 du livre de la Genèse, le Seigneur va promettre à Abraham un pays, va promettre une semence, et on sait la semence, c'est Christ. Donc, avec Abraham, après ça, il va en avoir une avec Moïse, l'alliance mosaïque, les 10 commandements de Dieu. Après ça, il va y avoir seul avec David qui était le roi d'Israël. Et par celle-là, Dieu voulait dire que le Messie serait aussi un roi et qu'il serait de la descendance de David. Alors, c'est son... Éphésiens 2:12 nous parle de toutes ces alliances-là comme étant les alliances de la promesse. À quoi on fait référence quand on dit la promesse? Genèse 3:15, Dieu avait promis qu'il enverrait un Messie pour régler le problème du péché de l'homme, mais tout ça a pris du temps avant l'époque où il y a eu le déluge et l'arrivée de Christ, il y a eu beaucoup de temps. Et le Seigneur a révélé graduellement et progressivement comment il était pour faire en donnant dans les Écritures des détails sur comment tout cela arriverait. C'est important de voir ça. Et c'est le début aujourd'hui. Ça serait étudier Genèse 9, pour ne pas mentionner ça, c'est comme ça nous prive du cadre, du grand cadre. Le but n'est pas de comprendre tout cela ce matin. Je comprends que ça peut être une certaine confusion, mais dans le fond, c'est juste de comprendre que Dieu avait donné les alliances dans le but de révéler comment il était pour amener Christ sur la terre. Et on sait que Jésus, lui, quand il est arrivé sur la terre, il venait accomplir tout ce qui avait été déclaré sur lui dans les différentes alliances. Donc, la nouvelle alliance, quand Jésus est venu, il venait réaliser la phase finale de l'alliance de grâce. Voyez-vous, les Écritures, Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, vous avez sûrement tous lu le Nouveau Testament. Quand Christ a été crucifié et qu'à un moment donné, bon, il s'était passé beaucoup de choses à Jérusalem et Christ est ressuscité et Christ marche avec ses disciples, les disciples qu'on appelle, et les disciples, on a ça dans Luc 24, verset 27, et le Seigneur, autrement dit, il leur apparaît, puis il marche avec eux, Puis là, il leur dit qu'est-ce qui se passe. Ils ont l'air tout en souci, ils ne comprennent plus rien. Le Messie qui attendait, qui était supposé être pour eux un libérateur, de sortir les Romains de leur pays et de leur donner la liberté, bien, ils l'avaient pris puis ils l'avaient crucifié, il était mort. Pour eux, ils ne savaient pas encore qu'il était ressuscité, ils étaient complètement mêlés. Et Jésus, dans Luc 24, chapitre 20, verset 27, nous dit quelque chose. « Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qu'ils le regardaient. » Autrement dit, le Seigneur, avec les disciples, a pris la Bible dans les différents livres. On dit, leur expliquait dans toutes les Écritures. Donc, à quelque part, chaque livre des Écritures, d'une façon ou d'une autre, parle de la venue de Christ. Et il dit aussi, dans toutes les Écritures, et il leur expliquait par tous les prophètes. Il dit, commençant par Moïse. Donc, autrement dit, Moïse, il commence par l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et après ça, il prend chacun des prophètes et il leur explique, dans le chemin, en marchant avec eux, tout ce qui le concernait dans les Écritures. Autrement dit, il voulait leur donner une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble de comment tout ça s'est réalisé en lui. Alors, on avait vu que dans les différents versets, on ne les reprendra pas tout, chacun au complet, mais on va regarder. On avait dit qu'à l'intérieur des sept premiers versets, il y avait plusieurs choses que le Seigneur voulait donner à Noé. On les avait appelées la semaine dernière les 8 P. Donc, dans le verset 1, le Seigneur leur fait comprendre qu'il va, il leur dit « croissez, multipliez, remplissez la terre », leur fait comprendre que le droit de propager la vie, même s'il a détruit toute la terre, il laisse le droit de propager la vie à Noé, sa femme, ses trois fils et leur femme. Ça faisait combien de personnes? 8 personnes. Il leur dit, la venue du Christ va venir par génération, autrement dit, c'est la procréation normale. Il va y avoir des générations, des générations, des générations. Alors, le droit de propager la race est un ordre du Seigneur. Et il leur donne aussi une autre affaire, il dit « remplissez la terre ». Il leur dit pas « multipliez », donc autrement dit, il faut que vous ayez plusieurs enfants. Et « remplissez la terre », ça voulait dire que, on va voir dans les Écritures que une des premières manifestations du péché, ça a été la Babylone. La construction de la grande Babylone, la tour de Babel, qu'on a dit. Alors, la construction de la tour de Babel, qu'est-ce que c'était si ce n'était pas une désobéissance de la parole de Dieu qui dit de se multiplier et de se répandre sur la terre? Eux, ils avaient exactement l'idée inverse. On va se bâtir une ville, on va tous rester ensemble et on va se construire une tour qui va être assez haute qu'on va pouvoir avoir de l'adoration avec les démons. Alors, beaucoup, quand on lit ces passages-là, on croit que la tour de Babel, elle avait pour but d'avoir un contact avec les démons. Propagation, donc, autrement dit, l'obligation et la responsabilité pour les êtres humains de se propager. Et on avait vu aussi que Dieu, maintenant, leur donne une nouvelle protection, quand il leur dit « Vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux. » Autrement dit, quand on regarde la manière dont Adam et Ève et les premiers humains, il y avait des relations harmonieuses avec les animaux, jusqu'à la chute. Après la chute, les animaux auraient pu être agressifs envers l'homme. Dieu leur dit « À partir de maintenant, il leur donne la grâce que ça ne sera pas vous qui vont avoir peur des animaux, ça va être les animaux qui vont avoir peur de vous. Donc, c'est une protection. L'autre, c'est vraiment la provision. Un autre P, on parlait des mots qui commençaient par P, provision. Autrement dit, là, dans le verset 3, le Seigneur leur dit qu'à partir de maintenant, avant, la seule chose que vous aviez droit de manger, c'est de la nourriture, on pourrait dire végétarienne. Ils mangeaient des choses qui n'étaient pas des animaux, qui n'étaient pas obligés d'enlever la vie. Maintenant, elle leur dit dans le verset 3, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Donc, il y a quelque chose qui est ajouté, qui n'était pas avant la chute. Tu sais, que maintenant, l'être humain va pouvoir se nourrir des animaux. Maintenant, il leur fait un autre pays, on parlait. Dieu prépare l'annonce de son alliance. Et là, l'autre pays, c'est la prohibition. Il leur dit, vous allez pouvoir tuer les animaux, vous allez pouvoir vous nourrir de leur chair, mais vous ne pouvez pas manger la chair des animaux avec son sang. Et ce qu'il leur dit dans le verset 4, « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. » Autrement dit, il est en train de dire que l'âme de l'animal et l'âme de l'homme est dans son sang. Alors il dit qu'on la prohibition qu'on ne mangera pas cela de cette façon-là. Et l'autre, le Seigneur, versets 5 et 6, est en train aussi d'annoncer un principe très important aux hommes qui viennent maintenant de sortir de l'arche et qui ont le devoir de se répandre de se répandre sur la terre. Il leur dit, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de leur dire que si un être humain tue un autre être humain, Dieu va redemander son sang. Autrement dit, Dieu va exercer une certaine vengeance sur la personne et Dieu accorde le droit au magistrat d'un pays, autrement dit au juge d'un pays, ceux qui sont nommés par le gouvernement, d'enlever la vie de cette personne-là. Alors, si tu as tué et que c'est prouvé que tu as tué et que tu n'as pas de raison, si tu n'as pas en légitime défense, la Bible dit que Dieu demande que la vie de cet homme-là, puisqu'il a enlevé la vie à un autre, lui soit également enlevée. Et après ça, il y avait vraiment l'idée, verset 7, il leur redonne encore la foi, l'ordre de croître et de se multiplier. Il dit, peuplez en abondance la terre et vraiment multipliez sur elle. Vraiment l'idée que Dieu voulait. Là, il était 8 au départ. Là, ils ont dû avoir des enfants. Leurs enfants ont dû avoir des enfants. Et tout cela, à partir de 8, c'est à partir de ces 8-là qu'on est là, nous. Alors vraiment, on s'est répandu sur la terre. Maintenant, on est rendu au deuxième point. Ça fait une révision très rapide de ce qu'on a vu la semaine dernière, dans une heure. On l'a fait dans 5 minutes. Mais ça vous donne quand même une petite idée. Alors, dans le deuxième point qu'on voulait regarder, c'est l'alliance divine avec Noé qui est précisée. Les versets 8 à 11, c'est l'endroit où Dieu précise c'est quoi son alliance avec Noé. Alors, versets 8 à 10. Alors, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Autrement dit, est-ce qu'il établissait son alliance juste avec Noé, sa femme, ses fils, ou s'il établissait son alliance avec l'humanité? Avec l'humanité, parce qu'il dit, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Autrement dit, il l'établit avec eux, les 8, plus tous les enfants que ces gens-là vont avoir. Autrement dit, il l'établit jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée de Christ, parce qu'il dit, et verset 10, « Et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » L'alliance ici est non seulement universelle, les hommes de toutes les époques, de tous les temps, mais ça assure, comme je vous ai dit tantôt, un cadre temporel qui permettra l'apparition éventuelle du Messie promis. Il faut voir ça dans le texte, parce que si on ne voit pas ça, à quelque part, on manque un élément important. Dieu est en train de dire à Noé, La promesse que j'ai faite dans Genèse 3:15, elle va se réaliser, mais il ne lui dit pas combien ça va prendre de temps. Mais ça prend beaucoup de temps, alors il vient lui dire, je ne détruirai plus la terre, je vais donner à l'humanité le cadre temporel, le cadre de temps nécessaire pour que le Messie éventuellement se présente. Autre chose qui est à remarquer, donc c'est une alliance universelle. La deuxième point qu'on faut remarquer dans le verset 11, c'est que c'est une alliance unilatérale. Normalement, quand on parle d'une alliance, disons, prenons la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne avait signé une alliance avec l'Italie. Donc, normalement, une alliance, c'est une entente entre des personnes ou entre des gouvernements pour s'entendre sur certaines choses. Mais ici, on a une alliance unilatérale. Donc, normalement, les alliances entre les hommes, c'est des alliances bilatérales. Il faut qu'il y ait deux parties qui s'entendent sur des points précis. Mais ici, on n'a pas affaire à une alliance bilatérale. Donc, ce n'est pas une entente entre Dieu et les hommes. Donc, Dieu n'a pas discuté avec les hommes pour dire, « OK, voici ce que je vous propose, et vous, qu'est-ce que vous me proposez pour en arriver à une entente? » Ce n'est pas ça du tout. C'est une alliance unilatérale. Voici pourquoi. Il dit, « J'établis mon alliance. » C'est Dieu qui décide que maintenant, cette affaire-là, il n'y aura plus de destruction globale de l'humanité par un déluge universel. « J'établis mon alliance avec vous. » Et voici, là, il précise, « Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. » Autrement dit, jusqu'à l'arrivée du Messie, et même plus loin, jusqu'à ce que Christ revienne après avoir fait son œuvre, il dit, « Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Est-ce que les Écritures nous disent qu'il va y avoir une autre destruction globale de la terre un jour? Et par quel moyen? Le feu. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit qu'éventuellement, il va détruire la terre et ça va être par le feu. Alors, il n'est pas en train de dire qu'il n'y aura plus jamais de destruction. Il est en train de dire qu'il n'y aura plus de destruction par les eaux du déluge. C'est une promesse que le Seigneur fait à Noé. Donc, ici, Dieu est l'initiateur, dans le sens que c'est lui qui dit sa décision et il n'a pas... Normalement, une entente, lorsqu'elle est humaine, elle est négociée. Quand Hitler a voulu faire une entente avec Mussolini, il a fallu qu'il se rencontre, il a fallu qu'il y ait une négociation. Tu vas faire ci, puis moi, en contrepartie, je vais faire ça, et etc. Alors, ils ont signé une entente, voici ce qu'on va faire. Là, ici, c'est pas ça. Unilatéral, c'est-à-dire c'est Dieu qui décide ce qu'il va faire, et il annonce à son serviteur qu'il n'y aura plus de déluge. Et c'est une alliance maintenant qui est très spécifique. C'est l'alliance, c'est l'assurance divine qu'il va y avoir un intervalle temporel, autrement dit, un nombre d'années suffisant pour que Christ arrive sur la terre. Parce qu'il y aurait eu un autre déluge. Pas parce que les hommes, après, qui sont sortis de l'arche, est-ce qu'après ça, quand ils ont commencé à se multiplier, est-ce qu'ils sont devenus moins méchants qu'avant? Ils étaient aussi méchants. Mais le Seigneur a dit, pour que le Messie arrive, ça va prendre du temps, et je vous garantis que je ne vous détruirai plus globalement comme je l'ai fait lors du déluge. Donc, c'est une alliance universelle, unilatérale et spécifique, très précise. On va regarder notre troisième point. Le troisième point, c'est l'alliance divine avec Noé qui est préservée. Pourquoi il précise, mais après il veut leur dire qu'il va y avoir un moyen par lequel les hommes vont pouvoir vérifier si Dieu va tenir sa promesse. Il a voulu donner un signe visible, un signe observable. Lequel d'entre nous a jamais vu un arc-en-ciel? On en a tous vu. On sait que c'est tellement beau, parce que quand il y a eu de la pluie et qu'on voit cela, c'est sûr que moi, Lucie me dit, « Vite, Martial, viens voir, une belle arc-en-ciel. » Et je cours pour voir ça. On aime ça, c'est beau, c'est coloré. Et Dieu nous dit que c'est le signe par lequel il veut démontrer que sa promesse est certaine. Aussi longtemps qu'on verra des arcs-en-ciel, Dieu tiendra sa promesse de ne plus détruire les hommes par le déluge. Alors, il dit dans le verset 12 à 14, il veut donner un sceau et un signe. Alors, il dit, et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. » Voyez-vous, il ne dit pas « c'est juste pour ta génération, pour les générations à toujours. » « J'ai placé mon arc. » Un arc, vous avez déjà vu ça, les personnes qui tirent de l'arc? C'est quoi la forme de l'arc? C'est exactement ça qu'on l'appelle un arc en ciel. « Mon arc dans la nue, et il servira, il dit à quoi ça va servir, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. On l'a vu encore récemment. C'est le signe que Dieu va toujours réaliser la promesse qu'il a faite. On sait aussi la raison, quand on dit c'est un sceau et un signe, le signe c'est l'aspect visible de l'arc avec ses sept couleurs. Mais pourquoi Dieu pouvait faire la promesse? Il se basait sur quoi pour faire cette promesse-là? Il se basait sur ce qu'on pourrait appeler le sceau. Sceau, S-C-E-A-U. Un sceau. Parce que, quelle était la première chose que Noé a fait quand il est sorti de l'arche? Il a offert des sacrifices à Dieu et Dieu les a reçus comme étant de bonne odeur. Mais pourquoi Dieu, est-ce que Dieu prend plaisir à ce qu'un homme tue un animal, puis le fasse brûler, puis là, Dieu sent ça, puis il dit, ça sent bon? Mais non. C'est tout simplement, Dieu voyait dans l'animal tué par Noé le symbole de la venue future de Christ, qui serait la victime. On appelle Jésus, on a chanté un chant ce matin, l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu et il a été sacrifié et il a été jugé par le Père, mais pas pour ses péchés à lui, il n'en a jamais commis, comme on a dit ce matin. Il a été jugé pour nos péchés à nous. Alors le sceau, c'était vraiment le fait que Dieu basait sa générosité de démontrer le signe par le fait que lui, il voyait le sceau de l'Alliance. Il voyait le sceau du sacrifice futur du Christ à venir. Voyez-vous, dans les Écritures, le Seigneur est souvent représenté, il nous parle de Christ comme étant le soleil. Vous souvenez-vous des passages où on parle de Christ comme étant le soleil de justice? On a ça dans Apocalypse, chapitre 4. « Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. L'arc-en-ciel qui environne le trône de Dieu est le signe de la gloire et de la miséricorde divine et aussi du fait d'une nouvelle création. » Juste pour voir, qu'on fasse le lien entre, pour faire un arc-en-ciel, ça prend le soleil. Si le soleil n'est pas là, là, oublie ça, là, même s'il y a des nuages, ça prend des nuages. Donc, c'est les rayons du soleil qui traversent des gouttes d'eau dans une certaine angle pour que nous, la lumière du soleil fait qu'on voit des couleurs. Alors, ici, l'arc-en-ciel, si on voit Jésus-Christ comme étant le Seigneur, c'est lui. Alors, dans l'Apocalypse, chapitre 10 aussi, ça dit, « Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée. » Nuée, c'est quoi? Les nuages. Environné d'une nuée. « Et il y avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Dans Malachie, chapitre 4, versets 1 et 2, on a vraiment l'expression que Jésus est le soleil de justice. Donc, autrement dit, il est la lumière et que c'est par sa lumière que toute chose bonne arrive. Car voici, le jour vient, ardent comme un four, Malachie 4, verset 1. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume, et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Verset 2, c'est le verset qui est important. Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de justice. À qui il fait référence quand il parle que se lèvera le soleil de justice? Il fait référence à la personne de Jésus-Christ. Et la santé dans ses rayons, et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Moi, quand j'ai préparé l'étude, je dois vous dire que j'ai été profondément béni. Parce qu'il y a des choses que l'auteur que je me sers m'a fait voir, que je n'avais jamais vraiment réfléchi, ni même fait attention à ces faits-là. Je vais vous les partager. Normalement, un arc, c'est-tu un instrument de paix ou un instrument de guerre?
De guerre.
De guerre. Là, ici, l'arc devient un instrument de paix. Alors, l'arc est pour les hommes un instrument de guerre, tandis qu'il devient ici, pour Dieu, un symbole de paix. Autre chose, remarquez la direction de l'arc. Quand vous prenez une flèche, si l'arc est comme ça, la flèche, elle va aller où? Elle va aller en haut. Donc, la flèche n'est pas dirigée vers le bas. L'arc est une courbe dirigée vers le haut et n'a ni corde ni flèche. Ah, c'est intéressant. Un instrument de guerre qui est dirigé vers le haut, qui n'a ni corde ni flèche. Il a donc pour but de rassurer et non pas de terrifier. Si l'arc aurait été comme ça, et qu'on aurait vu une corde, qu'on aurait vu une flèche accrochée après, ça aurait été comme un symbole que Dieu avait l'intention d'envoyer quelque chose d'agressif vers les hommes de la terre. Mais dans le sens inverse, il n'y a pas de corde, donc il n'y a pas de flèche, donc ça devient un symbole de paix, un symbole pour nous rassurer qu'il n'y aura plus de destruction. Et autre chose intéressante, sans doute que quelqu'un qui fera une étude approfondie de l'arc-en-ciel avec tout le symbolisme qu'il peut y avoir de spirituel là-dedans, il serait profondément, richement béni. Voyez-vous, ce sont les rayons du soleil qui se diffractent sur les nuages qui font apparaître le spectre des sept couleurs. Et ça, c'est intéressant. Moi aussi, quand la première fois j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vraiment observé ça. » Quelles sont les sept couleurs? Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Là, à première vue, on voit juste sept couleurs. Mais est-ce que les couleurs, dépendamment de leur situation dans l'arc, peuvent avoir une signification spirituelle? Les sept couleurs, en fait, parce que quand les scientifiques qui étudient le phénomène de l'arc-en-ciel disent que dans le fond, on en voit sept, mais dans le fond, il y a une infinité de couleurs dans l'arc-en-ciel. Il y a toutes sortes de petites variations que nous, à l'œil, tout ce qu'on voit, c'est sept couleurs, mais les scientifiques disent que dans l'arc-en-ciel, il y a une infinité de couleurs. C'est la réfraction du soleil sur les gouttes d'eau. Et on sait que souvent les Écritures utilisent la mer, l'eau comme étant un symbole du peuple. Alors l'eau, c'est comme si c'était un symbole du peuple, des hommes de la terre. Et le soleil, qu'on a dit, on le voit comme le symbole du soleil de justice, c'est lui qui envoie une multitude de rayons de bénédiction envers les hommes. Moi, j'ai été... Et autre chose à remarquer, on pourrait probablement faire beaucoup plus d'observations que cela. La couleur rouge est à l'extérieur.
Puis la couleur violet est à l'intérieur. Alors la couleur rouge, normalement, c'est le sang. Et la couleur violet, c'est souvent une image royale, souvent une image... Moi, je trouve que l'arc-en-ciel, en soi, serait une étude qu'on pourrait faire sur les Écritures, qui serait fort bénissante, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Mais souvent, on lit les Écritures avec une telle rapidité, on ne prend pas le temps, des fois, de méditer à toutes ces choses-là. Et dans le verset 15, le Seigneur veut démontrer, affirmer à son serviteur Noé, qui est un juste, que tout cela est un signe irréversible. Ça veut dire, irréversible, qu'on ne peut pas retourner en arrière. Quand Dieu parle, quand Dieu fait une promesse, la promesse est d'une telle solidité que tu ne peux pas revenir en arrière. Alors, il dit dans le verset 15, « Je me souviendrai. » Est-ce que le Seigneur a besoin nécessairement de voir les couleurs après qu'il y a eu de la pluie et que le soleil apparaît, qu'on voit un petit peu de... Ici, c'est une image qu'il utilise pour nous dire que sa promesse, il va s'en souvenir tout le temps. Lui, il dit, mais c'est donné dans un langage qui a l'air à vouloir dire qu'il va l'oublier, mais il va s'en souvenir quand il va voir l'arche. Pas ça tout à fait que le verset veut dire. « Je me souviendrai de mon alliance qui existe entre moi et vous, et tout être vivant, de toute chair. Tous les eaux et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. » Donc, ça devient un signe irréversible qui ne peut pas retourner et certain. L'expression « je me souviendrai » est un anthropomorphisme. Oh, un grand mot. Anthropo, qui veut dire homme. Morphisme, qui veut dire forme. Donc, Dieu utilise un langage avec la forme humaine pour nous faire comprendre un principe, pour nous faire comprendre quelque chose que le Seigneur est d'une fidélité absolue dans ses engagements. Quand Dieu a dit dans Genèse 3,15 que pour régler le problème de l'homme, il était pour envoyer un Messie, il a fallu que les hommes soient très, très, très patients parce que c'est arrivé pas mal de centaines d'années, de centaines et de centaines d'années après, avant que Jésus vienne au monde. On a dit qu'on était fort probablement en l'an 1656, quand le déluge est arrivé, et Jésus est arrivé beaucoup, 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 beaucoup d'années après. Alors, les hommes ont espéré la venue du Christ. Tous ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament n'ont pas été sauvés parce qu'ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont cru au Messie à venir. Tous les gens qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Jésus, ils ont été sauvés par leur foi dans la personne à venir, le Christ à venir. Alors ça, c'est bien important de réaliser cela. Donc, c'est un anthropomorphisme qui veut montrer à Noé que Dieu est d'une fidélité absolue en ses engagements. Quand Dieu a envoyé le Messie, quand Jésus est venu au monde, sa promesse qui avait été faite très longtemps avant s'est réalisée, s'est accomplie. Maintenant, il est venu. Et il nous a fait une autre promesse, celle qu'il va revenir pour juger la terre, et là, pour arriver à la destruction par le feu. Alors, autant on peut se fier que Dieu a fait une promesse dans Genèse 3, verset 15, il a promis l'arrivée d'un Messie, on le sait, il est venu, il a 2000 ans. Et il nous a dit qu'il reviendrait. Alors, les promesses divines, parce que la promesse de Jésus, c'est une promesse divine aussi. Alors, Dieu a fait la promesse de la venue du Messie, il est venu. Dieu nous fait, Jésus, quand il est venu sur la terre, a fait la promesse qu'il reviendrait. Et on attend son retour. Alors, c'est comme une façon de dire à Noé, « Je ne reviendrai pas sur ma parole. » Vous remarquez que les hommes, quand ils font des promesses, ils reviennent souvent sur leurs paroles. Lequel d'entre nous a déjà fait des fois une promesse à un enfant, puis là, pour une raison quelconque, ne peut pas réaliser sa promesse. Là, mais excuse-moi, mais là, je peux pas. Alors ça, c'est l'être humain. L'être humain fait des promesses, puis souvent, il revient sur sa parole. Dieu, quand il fait une promesse, ou quand Jésus fait une promesse, c'est sûr et certain que ça va se réaliser. Maintenant, le verset 16 et 17 nous parle du fait que c'est une déclaration. Il veut nous montrer l'aspect éternel de l'Alliance. Voyez-vous, lisez le verset 16 attentivement. Ça dit, « L'arc sera dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'Alliance éternelle. » À quoi on fait référence, là? L'Alliance de rédemption. L'Alliance éternelle, celle qui avait été prise entre Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Dieu dit, l'arc sera dans les nuées et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe que j'ai établi entre moi et toute la chair qui vit sur la, toute chair qui vit sur la terre. Alors l'expression l'alliance éternelle est d'une richesse inouïe. C'est intéressant des fois. Tu lis un commentaire, puis là, il y a quelqu'un qui te dit une phrase, et tu te dis, ah, lui a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu encore. Alors, dans le Pulpit Commentary, ce que je me sers, l'auteur fait la très lumineuse remarque suivante. Je vais vous la donner en anglais, mais elle est très courte. C'est pour ça que je vais la traduire en français. Il dit, « Literally, the covenant of eternity is one of those pregnant scriptures, sayings that have in them an almost inexhaustible fullness of meaning, which does not at first sight disclose itself to the eye of the unreflecting reader. » Il doit y en avoir d'entre vous qui ont compris, peut-être pas tout. On va le prendre en français. Traduction libre. Faites par moi, là, avec peut-être des fautes, mais en tout cas, j'ai fait mon possible. Traduction libre, littéralement, l'Alliance éternelle est une de ces expressions scripturaires fertiles et fécondes qui ont en elles une presque inépuisable plénitude de signification qui ne se laisse pas découvrir au lecteur inattentif. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui est capable de traduire l'expression en anglais, je trouve que je ne suis pas capable de le traduire. Pregnant scripture. Pregnant, une femme enceinte, en anglais, c'est pregnant. Et il est en train de dire, l'écriture, l'expression ici, alliance éternelle du verset 16, c'est un verset enceinte. On ne peut pas dire ça vraiment en traduction française. Moi, je l'ai traduit par expression scripturaire fertile et féconde. Mais je trouve qu'en anglais, pregnant scripture, c'est encore plus imagé. C'est comme Dieu est en train de dire, l'auteur est en train de nous faire remarquer qu'il y a dans les Écritures parfois des expressions qui sont comme l'équivalent d'une femme enceinte. Elle est remplie de choses qu'on n'a pas découvert encore et qui ne se laissent pas découvrir sans une méditation approfondie. Moi, je trouve ça tellement beau, là, la manière qu'il m'a dit ça. Il dit, ouais, ça veut dire que lui, dans l'expression « Alliance éternelle », comment pourrions-nous vider le sens de ce que ça veut dire l'entente qui a été prise entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans l'éternité et le but de tout cela était de sauver des âmes perdues sur la terre, des pécheurs qui maintenant, si Christ n'était pas venu, si on ne pouvait pas placer notre foi en lui, donc on irait tous en enfer, sans exception. Et maintenant, à cause qu'on peut avoir la foi en Christ, on est non seulement béni à partir du moment où on la reçoit et on devient un croyant, on croit, autrement dit, que tous les péchés qu'on a faits dans notre vie, sans exception, et on en a fait tous un nombre presque incroyable. Un seul péché, selon les Écritures, nous disent qu'une personne qui fait un péché mériterait d'être plongée vivant dans le lac de feu, autrement dit dans l'enfer, pour l'éternité. Si on en a fait plusieurs centaines, plusieurs milliers, vous imaginez-vous la quantité de douleur que vous devriez porter pour l'éternité, Parce que l'enfer, c'est éternel. Tu restes là tout le temps, tu souffres continuellement. Et à cause du fait que Christ est venu, cette entente, quand on parle d'une alliance éternelle, quand on dit qu'elle est « pregnant scripture », oui. Parce que si on se mettait à réfléchir à tout ce qu'il y a d'inclus dans le mot « alliance éternelle » et les bénéfices qu'on peut en retirer comme être humain, c'est bien sûr qu'on en passerait un méchant bout de temps à réfléchir et à s'émerveiller devant tout ce que Dieu a décidé pour nous dans l'éternité. Et là, on en profite parce qu'on est sur la terre. On profite déjà de ce que Dieu a décidé pour nous, de nous sauver, de nous donner une vie où on sait qu'on est pardonné. Mais ce qu'on est loin de savoir quand on dit « pregnant », on est loin de savoir tout ce qu'on va vivre dans le ciel. Et encore là, pour l'éternité, c'est « pregnant » pas à peu près. Là. C'est vraiment très « pregnant », comme je dirais. Alors, c'est très... c'est une superbe de belle... observation. Alors, l'alliance de rédemption, celle de l'entente trinitaire entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quelle était cette entente-là? C'était celle de vouloir sauver des pécheurs perdus qui étaient condamnés, toute la gang, à cause du péché d'Adam. Quand on vit au monde, on est tous morts spirituellement, et si on décède dans cet état-là sans avoir reçu la grâce de Dieu, on s'en va en enfer pour l'éternité. Et Dieu a permis que Christ vienne, et par la foi, on place notre foi en lui. Et quand on place notre foi en lui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Christ, quand il est venu sur la terre, a accepté de subir le châtiment qui aurait dû être le mien ou le vôtre à notre place, qui était un châtiment terrible, d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité, et en même temps d'accomplir la loi, c'est-à-dire le décalogue, c'est les 10 commandements de Dieu, c'est les règles divines concernant notre vie morale, concernant nos relations. Dans les 4 premiers commandements, c'est nos relations et nos devoirs envers Dieu. Dans les 6 derniers, c'est nos relations et nos devoirs envers les hommes. On a tous manqué une multitude de fois sur toutes ces choses-là. Alors, si Dieu exige que pour vivre en sa présence, il faut que j'aie obéi à la perfection à l'ensemble de tous ces 10 commandements et que je ne l'ai jamais fait, ça veut dire que je ne peux pas aller au ciel. Puis si j'ai manqué une multitude de fois puis que je suis condamné, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher mon salut par la foi dans une autre personne qui a fait pour moi ce que j'aurais dû faire. Donc, vu qu'on est condamné, j'aurais dû subir le châtiment, être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Christ a accepté de subir mon châtiment à ma place. Et il a accepté aussi d'accomplir à la perfection la loi, le décalogue, les 10 commandements, à la perfection, encore là, à ma place. C'est-tu un bon bargain à Saint-Baudouf? Vous êtes condamné à être plongé vivant dans le lac de feu et à souffrir pour l'éternité. Et par la foi en une personne, tu places ta foi en Jésus en croyant qu'il a subi ton châtiment à ta place, qui est d'une profondeur qu'on ne peut pas vraiment saisir parfaitement. On peut avoir une idée, mais pas parfaitement. Et aussi réaliser les exigences que Dieu avait envers chacun d'entre nous, que pour vivre en sa présence, il faut avoir accompli et obéi à la loi, à la perfection, et sans avoir manqué une seule fois. Qui d'entre nous a fait ça? On a tous péché, on était plongés, on s'en allait en enfer, toute la gang. La foi en Jésus, tu es en train de dire au Père, l'entente que tu pries avec le Fils de venir sur la terre, Il a accepté de subir mon châtiment à ma place. Je le reçois par la foi. Je sais que c'est lui qui l'a pris, mon châtiment. Et en même temps, tu dis, oui, les exigences que tu avais envers moi, c'est encore une autre personne qui les a faites à ma place. Le salut, c'est une affaire de substitution. Le Christ s'est substitué à toi pour recevoir ton châtiment. Et le Christ s'est substitué à toi pour accomplir à la perfection ce que Dieu exigeait de toi pour que tu puisses vivre en sa présence. C'est-tu un bon bargain? Par la foi, tu crois en Christ puis son châtiment et tous tes péchés sont payés, passé, présent, à venir, tous tes péchés de toute ta vie, et en plus, tu reçois la certitude que Christ, lui, il l'a accompli et que Dieu considère que le fait que je crois en son Fils, il considère comme si je l'avais fait moi-même. C'est-tu un bargain ou c'est pas un bargain? Des bargains mieux que ça, ça s'entend, il n'y en a aucun. C'est le meilleur bargain qu'on ne peut pas avoir. Alors, quand on parle ici de cette alliance de rédemption, de sauver les élus, ça commence dans l'éternité passée et ça va se rendre jusque dans l'éternité future. Donc, c'est un concept vraiment éternel. Il commence dans l'éternité passée. L'éternité passée, c'est que je n'ai jamais eu de commencement. Puis l'éternité future, c'est que je n'aurai jamais de fin. Alors, où on va passer notre vie après notre décès? Avec Dieu, dans l'éternité future, et qu'on profite en même temps de toutes les grâces qui sont reliées à son salut, avoir la paix de l'âme, avoir la certitude qu'on est pardonné de tous nos péchés, et bien d'autres bénédictions. Alors, si ce n'est pas une bénédiction extraordinaire, ça, je me demandais, c'est quoi une bénédiction extraordinaire? Alors, les concepts sont tellement glorieux, les concepts de tout ce qui s'est passé dans l'Alliance Trinitaire, c'est tellement glorieux que parfois, on saisit ces choses-là que d'une manière très superficielle et on ne saisit pas tout là. Mais je voudrais juste vous lire, terminer par vous lire Hébreux 6, versets 17 à 19. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse, quelle promesse? Genèse 3, 15. Dieu voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par le serment. Autrement dit, non seulement Dieu promet quelque chose, mais en plus, il met un serment. Autrement dit, Dieu ne ment jamais, mais si quelqu'un qui ne ment jamais fait un serment par-dessus, là, ça devient... Alors, ça dit dans le verset 18, « Afin que par ces deux choses immuables... » Quelles sont ces deux choses immuables? La parole de Dieu est déjà immuable en soi, mais si Dieu prend la peine de faire un serment par-dessus, ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée, espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme sûre et ferme qui pénètre au-dedans du voile. Alors, les applications que je fais du texte d'aujourd'hui, il y en a trois. Rendons grâce à Dieu pour ses innombrables bénédictions malgré notre condition de pécheur. Le privilège de participer à la procréation, le don de toute la terre pour l'habitation, la providence pour notre alimentation, notre protection contre les bêtes sauvages, la conscience de la valeur de la vie humaine, le sang, le devoir impératif et gouvernemental d'enlever la vie aux meurtriers et la responsabilité de multiplier, de remplir la terre. Deuxième application, bénissons le Seigneur pour le signe de l'arc-en-ciel. C'est notre garantie qu'il n'y aura plus de déluge. Dieu ne permettra plus de catastrophe universelle jusqu'à l'accomplissement de sa promesse d'envoyer le Messie, Jésus-Christ, et que tous les élus reçoivent le salut. Autrement dit, on est encore dans la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cet intervalle temporel va de Noé jusqu'au retour du Christ pour le jugement final. C'est tout un intervalle. Et on la rappelle, la promesse de Genèse 3, 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On ne rentre pas dans les détails de ça ce matin, mais autrement dit, c'est la promesse qu'il était pour envoyer le Messie. Alors, acte 13, verset 23, « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. » Les promesses de Dieu sont sacrées, irréversibles, sûres, solides et immuables. Prions en s'appuyant sur elles. Trouvons notre réconfort en les rappelant constamment à notre mémoire. Que l'Éternel soit béni loué et adoré pour sa glorieuse promesse de l'envoi du Messie, qui est partiellement accompli, mais qui s'accomplira jusque dans l'éternité. Amen.